Bonsoir. Processus électoral en RDC, l'opposition, la société civile et la diaspora congolaise proposent un projet de calendrier électoral qu'elles estiment réaliste, réalisable et cohérent. Elles suggèrent que les élections locales, municipales et urbaines se tiennent après 2016 pour une programmation rationnelle. Quel est qu'il faire de cette proposition? Nous en parlons avec François Nzekouyer, il est député national, et il est cadre du PPRD, parti de la majorité présidentielle. Bonsoir François Nzekouyer.
Bonsoir Guy Maté et bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent.
Professeur Alphonse Maïndo, il est docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani en province orientale. Bonsoir professeur Alphonse Maïndo.
Bonsoir Guy Maté.
Et lui va nous rejoindre, c'est Martin Mukonkole, le secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement, parti de l'opposition. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'opposition politique, la société civile et la diaspora congolaise proposent un projet de calendrier électoral qu'ils estiment réaliste, réalisable et cohérent. Selon ces acteurs, les élections locales, municipales et urbaines se tiendront après 2016 pour une programmation rationnelle. Les détails avec Berry Franklin Luchaka.
Le calendrier de l'opposition, la société civile et la diaspora congolaise comportent quelques similitudes et divergences avec le calendrier électoral global proposé par la CENI. En ce qui concerne les similitudes, les trois composantes et la CENI sont toutes d'accord que les élections présidentielles et législatives se passent le 27 novembre 2016 et la prestation de serment du président élu intervient le 20 décembre 2016. Quant aux divergences, l'opposition, la société civile et la diaspora congolaise proposent que les élections des députés provinciaux, des gouverneurs et des sénateurs couplés soient organisées en 2015. Les trois composantes justifient cette prise de position par le fait que ces élections sont prioritaires parce que suspendues au cours du cycle 2011-2016 et doivent être organisées en 2015. Cependant, la CENI prévoit quant à elle d'organiser les sénatoriales en janvier 2016. L'opposition, la société civile et la diaspora congolaise estiment qu'organiser des élections locales municipale et urbaine en 2015 telle que le prévoit la CENI est irréaliste et non consensuelle. Les trois composantes proposent que ces élections, qui sont complexes mais nécessaires à la consolidation de l'État et de la démocratie, se tiennent après 2016 pour, je cite, une programmation plus rationnelle. Fin de citation. C'est sur base de ces aspects que l'opposition, la société civile et la diaspora jugent leur calendrier réaliste, réalisable et cohérent qu'ils se proposent d'ailleurs de présenter lors des échanges formels qu'ils exigent en vue d'un consensus pour l'organisation des prochaines élections dans un climat apaisé et dans les délais constitutionnels.
Merci Berry Franklin Luchaka. Martin Mukonkole, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement, parti de l'opposition. Dans une déclaration lue vendredi dernier, vous proposez donc l'opposition, propose un projet de calendrier électoral que vous estimez, vous de l'opposition, réaliste, réalisable et cohérent. D'abord, qu'est-ce qui motive votre démarche?
C'est les soucis et l'amour du Congo qui nous amènent à faire cette démarche pour prouver réellement que nous aimons notre pays et nous voulons que la démocratie puisse faire son chemin normalement.
Alors, peut-on comprendre par cet acte que vient de poser l'opposition, la société civile ainsi que la diaspora, que vous améliorez, vous cherchez à améliorer le calendrier électoral tel qu'est proposé par la CENI le 12 février dernier?
Vous savez, nous sommes les respectueux des textes. Il est vrai et connu que c'est du pouvoir et de la compétence de la CENI de pouvoir élaborer un calendrier électoral et pouvoir aussi la proposer. C'est dans ce sens-là que nous avions dit, nous, en tant qu'opposition responsable, aimant notre pays et pour sauvegarder la démocratie, nous devons proposer pour ne pas rester dans tout ce qu'ils ont toujours l'habitude de penser, que nous émettons des critiques sans pouvoir faire des propositions. Nous avions estimé qu'il est tout à fait normal que nous proposions un calendrier consensuel constitutionnel, réaliste et budgétisable.
Oui, alors dans ce projet que vous proposez, vous considérez comme étant prioritaire la tenue des élections provinciales et tout ce qui est lié, n'est-ce pas, à ces élections, notamment les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, les élections des sénateurs, et vous proposez que cela soit tenu en 2015 en vue de résoudre la question de leur légitimité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Et nous, c'est dans la logique qui nous a poussé à réfléchir. Nous avions dit que le calendrier, c'est un calendrier irréaliste. Et nous avions estimé que nous devions commencer par les élections provinciales. Pourquoi? Parce que ce sont des élections qu'on a déjà organisées dans ces pays, là où les structures sont connues, et là où les modalités de pouvoir les organiser sont connues. Et aujourd'hui, les institutions ici de ces élections provinciales sont déjà hors mandat et sont déjà dans des conditions qui nécessitent qu'on puisse renouveler la légitimité. Voilà pourquoi nous avions estimé au niveau de l'opposition qu'il était plus réaliste. Si réellement nous voulons que la démocratie puisse se conjuguer valablement dans notre pays pour éviter tout glissement ou toute tentative qui a été pour arriver à violer les délais constitutionnels, nous avions estimé que cette proposition, elle était la meilleure en proposant qu'il y ait des élections provincial que nous organiserons en 2015. On peut même accepter et tenir rien que la date qui a été fixée par la CENI et les élections présidentielles.
Le 25 octobre.
Nous avions fait une proposition et cette proposition, c'est que nous avions comme solution que nous réclamons le moment des échanges, parce qu'il faut qu'il y ait une séance d'échange afin que nous arrivions à confirmer cela. Mais il est peut-être plus souhaitable que nous vous disions pourquoi nous n'avons pas voulu qu'on accepte parler pour le moment des élections locales. Prenez un cas. Quand nous réfléchissons sur ce qui s'était passé en 2011, on n'a jamais organisé des élections locales chez nous ici. Et je ne vois pas pourquoi on va continuer à appeler ça comme des arriérés. Bon, bien sûr, parce que ça a été le programme. On n'a jamais organisé ça.
On n'a pas non plus organisé des élections provinciales en 2011.
Mais on a quand même organisé des élections provinciales en 2006. C'est-à-dire, il y a déjà des structures, il y a des organes qui existent et des animateurs existent, ont toujours été budgétisés et c'est pris en compte. Mais voilà ce qu'il y a comme problème. On propose qu'on organise des élections locales en 2015. Jusqu'à ce jour, les gouvernements et la CENI, ils sont incapables de nous présenter l'effectif réel des chefferies ou des groupements. Or, ils ont retenu parmi les entités territoriales décentralisées, nous avons les secteurs, nous avons la chefferie, nous avons des communes et nous avons des villes. Et jusqu'à ce jour, on a des difficultés de nous dire combien de villes nous avons. S'il faut peut-être que je vous donne des chiffres. Je peux vous citer quelques chiffres à ce qui concerne les villes. Nous avons à ce jour, nous avons au moins 97 villes, dont 20 anciennes. Nous avons au moins 601 communes, dont 226 nouvelles. Nous avons au moins 487 secteurs. Nous avons au moins 259 chefferies. Et si nous prenons rien que ces contraintes sur le plan administratif, nous aurons au moins 220 000 candidats en 2015 pour ces élections-là. Or, cette logique-là, vous la comparez avec celle de 2011. En 2011, on avait 18 865 candidats pour 169 circonscriptions électorales. Or, pour le moment, en 2011, là, on avait aussi 255 460 listes des électeurs. Mais en 2015, il nous faut 1435 circonscriptions électorales avec 10 065 124 listes à imprimer. Allez-y comprendre. Si en 2011, nous avions eu 127 770 affichages, mais pour 2015, on aura 5 034 134 affichages. Avec tous ces éléments-là, nous nous disons, il est irréaliste aujourd'hui qu'on nous dise qu'on peut organiser les élections locales. Je ne vais même pas aller avec vous plus loin. Je peux vous dire, si nous devons maintenant chercher à comprimer tous ceux qui seront élus au niveau des conseils, des secteurs, des chefferies, urbains, et jusqu'au niveau des villes, nous arriverons à prendre en charge au moins 1500 agents, donc 22 500 agents plutôt. Or, les 22 500 agents, c'est-à-dire on va trouver des conseillers urbains, des conseillers des secteurs, et sans compter des bourgmestres, sans compter des maires, des maires adjoints, et des gouverneurs. Et je vous dis, et ça peut nécessiter que nous arrivions à un budget de 20 milliards.
Honorable Martin Mkonkole, lorsque vous insistiez, n'est-ce pas, pour que la CENI puisse publier un calendrier global des élections en RDC et que tout s'efface avant 2016, pourquoi vous n'aviez pas émis ce genre de réflexion, ce genre d'analyse?
Non, mais je crois que nous, si à son temps-là on disait, c'est parce qu'on avait toujours toutes ces cartouches que nous vous disons aujourd'hui. Il y a d'abord un problème, monsieur le journaliste. Jusqu'à ce jour, il y a d'abord des tribunaux de paix qui existent dans ces pays, mais qui n'ont jamais été installés, qui ne sont pas effectifs. Mais quand est-ce qu'ils vont, sur les plans, d'abord sur les plans seulement législatifs, quand est-ce qu'on va voter toutes les lois qui vont accompagner cette structure? Et c'est pourquoi nous avions estimé à notre temps là que c'était nécessaire que nous puissions, si nous devons avoir un cadre de concertation, pas de concertation, un cadre d'échange, pour que réellement qu'on comprenne, qu'on défende réellement les candidats que nous nous proposons, qui doit en principe nous garder dans la ligne droite de la démocratie pour éviter et les glissements, et la tricherie, et tout ce qui est comme distraction. Il y a un élément peut-être de fond que je n'avais pas oublié. Vous savez que ce calendrier, c'est un calendrier anticonstitutionnel.
Oh, ça va, on va y revenir. Honorable François Nzekouyé, je rappelle que vous êtes député national, vous êtes cadre du PPRD, parti de la majorité présidentielle. Comment vous analysez ces projets de calendrier électoral tels que proposés par l'opposition, la société civile ainsi que la diaspora congolaise?
D'abord, il faut être précis et guimanté. Il ne s'agit pas de toute la société civile, encore moins de toute la diaspora congolaise.
Évidemment, la société civile, elle est plurielle.
Il faut une certaine...
L'opposition...
Le français doit être précis pour une meilleure compréhension. Parce que vous donnez l'impression que c'est toute la société civile congolaise, c'est toute la diaspora congolaise, et j'ai même en doute que ce soit toute l'opposition congolaise qui soit d'accord avec ce qui vient de se dire. Donc cette nuance est détail.
Voilà.
Une certaine opposition, une certaine société civile et une certaine diaspora a proposé un calendrier.
Et comment vous analysez ces propositions?
D'abord, ils n'ont aucun droit de proposer des calendriers. Parce que, lui-même l'a dit, ils sont respectueux des textes et c'est de la compétence de la CENI de proposer à la nation un calendrier électoral. Et donc, c'est un fait des pailles qu'ils lancent encore, comme ils en ont l'habitude, pour distraire l'opinion. Mais moi, je voulais d'abord revenir au point de vue de l'opposition, qui est ballottante, qui change du jour au lendemain selon les humeurs ou selon les intérêts politiciens. Guy Maté, nous sommes au Congo en 2005. L'opposition refuse d'aller aux élections. L'UDPS, je veux dire, une certaine opposition, refuse d'aller aux élections parce que on a inversé la pyramide électorale, en commençant par les élections présidentielles de la députation nationale et la suite. Ils disent on ne peut pas aller aux élections. Ils disent on ne va pas aux élections parce qu'on n'a pas organisé un recensement général. Aujourd'hui, l'opposition a refusé et est revenue sur ce point de vue. Pas plus tard que l'année dernière, ou disons en 2013, parce que le temps va vite, en juillet 2013, les conclaves de l'opposition, leurs conclusions lues par l'actuel ministre du budget, Michel Bongongo, disent très clairement que les élections doivent se faire en commençant par les élections locales, municipales et urbaines. Ils ont dit également qu'il fallait un recensement au préalable, même si aujourd'hui, ils l'ont récusé et ils ont allégué que cela a été proposé à un moment suspect. On a concédé. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas continuer à suivre les humeurs des personnes qui considèrent qu'ils n'ont pas un intérêt particulier à une organisation des élections locales. Pourtant, eux-mêmes disent, dans leur communiqué que j'ai en face, quant aux élections locales, municipales et urbaines, qui sont certes plus complexes, mais nécessaires à la consolidation de l'État et de la démocratie par la base.
Qui évoque un certain nombre de contraintes qui feront que
ces élections-là
ne pourraient pas être organisées.
Il ne revient pas à l'opposition, encore une fois, de le dire. Si la CENI était venue devant l'Assemblée nationale pour dire, pour nous, il sera impossible d'organiser les élections locales. Nous avons débattu avec eux pendant que nous avons examiné la loi électorale. Nous avons changé une option. C'était celle d'organiser la circonscription électorale, soit les groupements pour les élections locales. Ils nous ont démontré noir sur blanc que cela allait rendre complexe et compliqué l'organisation de ces élections. Ils auraient pu à ce temps-là nous dire non, par rapport aux élections locales, l'état matériel ne pourra pas nous permettre de les faire étant donné la complexité. La CENI n'a jamais dit cela. La CENI n'a non plus jamais dit qu'il manquerait des moyens pour organiser les élections locales. D'autre part, il est aberrant de considérer que les élections qui ont déjà eu lieu soient prioritaires
par rapport aux élections qui n'ont jamais eu lieu, pourtant prévues par la Constitution. Ça veut dire que l'intérêt de l'opposition aujourd'hui, ce sont les élections auxquelles leurs leaders participent, et non pas les élections auxquelles la population qu'ils pensent ou qu'ils affirment jour et nuit représenter doivent participer. Et nous estimons que la majeure
partie de nos populations... On dit entre deux choses, on choisit la moindre. Si l'opposition estime que les élections qui sont faciles à organiser, ce sont les élections provinciales...
Ce n'est pas les élections les plus faciles, ce sont les élections auxquelles ils participent, qu'ils intéressent et en tant que leader de l'opposition. La base aujourd'hui, moi je viens des vacances parlementaires, j'ai été avec ma base. Ils ont dit qu'ils attendent de toute urgence des élections locales pour pouvoir contrôler la gestion de la cité là où ils vivent. 90% de notre population, 80%, vit en milieu rural.
Et les arguments défendus par l'honorable Mkonko, le sujet de local,
vous lui avez posé la question quand ils ont demandé qu'il y ait un calendrier global. N'avaient-ils pas ces arguments? Ils disent qu'ils ont réservé les cartouches. À quel moment devraient-ils les présenter? N'est-ce pas avant que le calendrier ne sorte, plutôt qu'après? Ça veut dire que l'opposition est là pour se moquer et de la CENI et de l'opinion nationale internationale pour brandir les choses après coup. Ils affirment des choses avant, ils les défendent haut et fort, et demain, ils font volte-face et tout le monde doit les suivre. Ce n'est pas responsable, Guy Maté. Il faudrait que notre opposition dans notre pays arrive à s'assumer et arrive à rester cohérente par rapport à ses prises de vue. La réalité, c'est quoi? La plupart des partis de l'opposition n'ont pas une assise nationale. Et ils craignent que s'il y a des élections locales, c'est la majorité qui va rafler tous les sièges. C'est ça la réalité. Et nous allons contrôler les pouvoirs à la base et nous allons contrôler les pouvoirs au sommet.
Donc c'est plutôt l'opposition qui est prête pour les glissements dont
Déjà, ils vous parlent de ces glissements. Ils veulent que les élections, pour ce qui concerne les municipales, se tiennent même pas en 2016, mais après 2016, donc 2017. Élections qui auraient dû se présenter en 2006, qu'on a dû reporter, aujourd'hui, pour eux, ils ne représentent aucun intérêt. Pourtant, c'est la consolidation de la démocratie à la base qui intéresse l'ensemble de la population congolaise.
Merci.
Qui est avec la population, qui n'est pas avec la population congolaise?
Merci, professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani en province orientale. Comment vous analysez ces débats au sujet du calendrier électoral des élections en RDC?
Bien, merci beaucoup Guy Maté. Je pense que ce que je peux dire d'abord d'emblée, c'est que les calendriers électoraux, effectivement, établir un calendrier électoral, ça relève de la compétence de l'État. C'est-à-dire ici, l'État peut, à travers ses institutions, en l'occurrence, la CENI va établir les calendriers. C'est donc un domaine de souveraineté de l'État. Et ça, on le trouve dans tous les pays du monde. Hein. Donc, si vous allez dans toutes les grandes démocraties, ce sont les ministères de l'Intérieur, d'ailleurs, ils n'ont pas, la plupart des pays n'ont pas des démocraties, n'ont pas d'institutions d'appui à la démocratie dans ce domaine-là. C'est vraiment la souveraineté de l'État. Alors, parce que si on doit rechercher à chaque fois un consensus pour organiser des élections qui sont prévues par les textes constitutionnels et les lois, ça devient ingouvernable. Alors, donc, ça c'est une première chose à dire. Mais ceci dit, dans ces pays-là, lorsqu'il y a élection, il y a véritablement une compétition ouverte et libre qui permet l'expression de tous et qui permet aussi l'alternance. On peut avoir des gens qui sont au pouvoir, qui organisent les élections et qui les perdent. Alors, le problème maintenant dans nos pays du tiers-monde avec des régimes autoritaires, c'est que on n'est pas, comme disait d'ailleurs un ancien président, paix à son âme, c'est Bongo, c'est qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Et donc l'opposition est en train de soupçonner les autres en faisant un calendrier de cette manière-là, de les mettre sous pression dans une situation où ils vont perdre les élections. Alors donc il y a pour ça une nécessité de discuter, de négocier avec les autres, d'associer les autres pour alimenter, créer ou rassurer tout le monde, créer un climat de confiance mutuelle. Alors, et je pense qu'il y a une raison importante aussi qu'il faut ajouter à ces débats, c'est que nous sommes un pays assez fragile, un État fragile qui sort des années de guerre et d'instabilité politique avec des effets que l'on connaît, et nous sommes encore en train de nous sortir péniblement des zones, surtout dans les zones de l'Est là-bas. Ah, donc il faut essayer d'éviter tout ce qui peut encore nous amener dans une situation de difficultés, des troubles intérieurs et tout ça. Alors, ceci dit, il me semble que l'opposition est pratiquement prise dans son propre piège. Aussi une partie de l'opinion publique nationale et internationale, parce que, comme je dirais, est pris qui croyait prendre, en fait. Alors, il y a une espèce de fuite en avant, puisqu'on a, exigé, l'opposition a exigé notamment qu'on puisse avoir des élections dans les délais constitutionnels et un calendrier global. Or, ce qu'on a là maintenant, la CENI a pondu un calendrier global, mais un calendrier global qu'on va exercer comme une espèce de sprint. Il faut courir vite pour arriver à ça, en quelques mois, faire de nombreuses élections. Et c'est difficile à tenir. Et je comprends l'opposition, sa crainte, c'est qu'on ne puisse pas avoir les moyens. Les autres, ils ont les moyens parce qu'ils sont au pouvoir. Alors, si on va dans cette condition-là, on va perdre. Et donc, on se ravise pour exiger qu'on puisse essayer de faire le choix. Et faire des choix, ça signifie qu'il faut mettre des priorités et dire, voilà, ça c'est prioritaire pour nous, donc on le fait. Alors maintenant, la question qui se pose, ce qui est priorité pour moi ne l'est pas forcément pour d'autres. Vous, pourquoi se fixer sur la présidentielle ou législative et pourquoi pas sur les élections locales qui ont été promises aux gens depuis 2006, mais jamais tenues? Donc on pourrait dire, commençons par ce qui n'a jamais été fait. Et les autres qui sont plus, qui ont déjà été faits au moins deux fois, on peut attendre. On peut leur reposer ce type d'argumentation.
Oui, par rapport à, n'est-ce pas, à la priorité par rapport à ces différentes élections, vous avez suivi le député Mukonkole qui estime que organiser les élections locales d'ici 2016 avec tout ce que cela comporte comme contrainte, c'est irréaliste, irréalisable. Vous ne donnez pas raison à l'opposition?
Il s'agit pas de donner raison à qui que ce soit. Il s'agit d'essayer d'analyser, si vous voulez, de regarder froidement la réalité en face par rapport à ça. Et donc, il me semble, d'abord, avant que je donne ma réaction à ça, il me semble qu'il y a une espèce de fixation sur la présidentielle législative, et c'est ça qui fait en sorte que on a l'impression que l'opposition manque de stratégie, de vision globale, est en train de courir derrière la majorité et manque d'anticipation. Et donc, à chaque fois qu'elle se cuisse sur quelque chose, elle obtient ça, après on lui sort un autre truc, elle doit courir encore et inventer une stratégie. Maintenant, il faut que l'opposition puisse penser globalement et anticiper déjà ce qu'on pourrait faire d'autre. Alors, ceci dit, techniquement, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à l'ère actuelle de pouvoir organiser les élections locales au niveau des secteurs, au niveau des communes et des villes. C'est beaucoup plus compliqué parce que ça va demander quoi? Ça va demander, entre autres, de connaître les gens, les électeurs d'abord, de connaître les habitants aussi pour déterminer le poids démographique de ces entités-là pour permettre de déterminer le nombre de sièges et de découpages. Et donc, ce qu'on a voulu éviter en faisant annuler l'article 8 du projet de révision de la loi électorale, on va l'obtenir par ces billets-là. Alors je pense que c'est ça qui fonde plus ou moins cette crainte de l'opposition, de dire non, il faut renverser plutôt l'ordre des priorités pour permettre à ce qu'on puisse avoir les élections qui sont techniquement les plus faciles à réaliser, notamment la présidentielle et éventuellement les législatives. Alors donc dans ces cas-là, si on tient compte de la facilité, le choix est clair, c'est la présidentielle et les législatives. Mais si l'on veut plutôt privilégier, je veux dire, la participation des citoyens, si on veut partir de la base pour consolider d'abord la démocratie à la base, alors dans ce cas, la priorité serait les élections locales et municipales.
Merci, honorable Martin Mukonkole. Vous de l'opposition, vous voulez une chose et son contraire, hein, n'est-ce pas vous qui demandez à ce que qu'on puisse avoir un calendrier global des élections et que tout s'efface avant 2016 dans votre conclave que vous avez organisé il y a quelques années, l'honorable Nzekouy l'a rappelé. Vous avez même souhaité que l'on commence par les locales. N'est-ce pas que vous êtes tombé dans votre propre piège, comme vient de le dire le professeur Alphonse Mahindou?
Non, je vais commencer par préciser d'abord. L'honorable François, je ne sais pas, lui, il est de quelle opposition pour qu'il dise c'est une certaine opposition? Il a quelle température, quel thermomètre pour dire une certaine diaspora? Moi, je crois ici, nous devons rester le plus logique possible. Il ne faut pas qu'à un certain moment qu'on soit confusionniste. Et les textes sont clairs, qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. Il ne faut pas qu'ils continuent à confondre. Parce que nous avons des gens qui étaient hier de la majorité qui sont avec nous dans l'opposition. Nous les considérons de la majorité.
Mais vous n'allez pas nier le fait que l'opposition dans ces pays est plurielle, comme la société civile, comme la diaspora.
Mais je vous dis, je peux aujourd'hui vous demander, messieurs les journalistes, vous connaissez un opposant qui n'est pas avec nous dans cette plateforme que nous avons pu mettre en place? Je ne sais pas, vous en connaissez qui. Et je vous dis que tout celui qui est de l'opposition, il a compris et il est devenu derrière la volonté populaire de notre peuple.
Voilà.
Ils sont avec nous.
Est-ce que vous êtes tombé dans votre propre piège?
Je vais y arriver. Vous comprenez d'abord que l'honorable François est en train de démontrer certaines contradictions dans sa façon de raisonner. Il nous dit que pourquoi nous avons toujours attendu au lieu de le faire depuis notre conclave de l'opposition délimitée. Mais nous avions pondu à son temps là un document. Est-ce que ce document-là, c'était un document, celui-là nous donnait maintenant le pouvoir de nous substituer à la place de la CENI? Et nous avions, à l'introduction, je vous ai dit, que nous reconnaissons que c'est de la compétence et du pouvoir de la CENI de pouvoir élaborer un calendrier. Mais nous nous sommes dit, la situation dans laquelle nous nous retrouvons, surtout la CENI en tant qu'une institution d'appui à la démocratie, nous ne sommes pas dans une situation normale qui peut réellement penser que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais parce que c'est une institution d'appui à la démocratie, nous avons besoin, à un certain moment, de la participation de tous les acteurs faisant partie de ce processus pour qu'il y ait réellement des élections apaisées. Enfin, que la démocratie puisse avoir ses assises. Mais je vais arriver.
Sans pour autant vous couper, la CENI a toujours dit, répondant à cette préoccupation, qu'à son sein, n'est-ce pas, il y a tout le monde, toutes les composantes sont là. La société civile, la majorité et l'opposition.
Non, je crois que je ne vais pas entrer dans les petits détails. Et nous avions aujourd'hui, dans le cadre de l'opposition, nous avions estimé que c'est nécessaire que nous puissions nous prendre en charge et conformément à ce qui s'est passé le 19 jusqu'au 25 janvier, vous avez vu que notre peuple s'est approprié de ce processus et s'est approprié de cette démarche électorale. Moi, je voulais peut-être donner une information. Il y a des amis qui sont peut-être mal informés. Il n'y a pas, au niveau de la Constitution, une contrainte à ce qui concerne les élections locales ou provinciales. Il n'y a que les élections, l'élection présidentielle, là où il y a la contrainte constitutionnelle. C'est comme ça que nous avions dit, pour réellement respecter notre peuple et rester les plus réalistes, au lieu d'arriver à ces tentatives de glissement ou à ces tentatives de pouvoir prolonger les mandats des uns des autres inutilement, nous vous avions donné des chiffres. Il est plus souhaitable que nous soyons réalistes, que nous restons dans la logique. Quand vous parlez, la CENI elle-même, parce qu'il y a l'honorable François qui n'a pas peut-être pu comprendre, la CENI a relevé des contraintes externes. Il y a la date du Vendée, la date du Vendée février. Je crois qu'il a les calendriers, il peut lire. Qu'est-ce qui était dit? Est-ce qu'on a déjà disponibilisé tous les fonds pour que cela puisse se faire?
Voilà, on est après le Vendée aujourd'hui. Il y a une réaction pour vous qui vient de Bukavu, au sud de Kivu.
J'adore Igilima de Bukavu, chef lieu de la province du sud Kivu. Le projet de calendrier qui a été proposé par l'opposition est à saluer. Néanmoins, je me demande en quoi tous ces qualificatifs lui attribués sont opposables au calendrier publié par la CENI. En dehors de quelques contraintes, le calendrier de la CENI est aussi réalisable. Pouvons-nous dire que ce nouveau projet de calendrier vient contourner le contexte de la CENI pour qu'il mérite tous ces qualificatifs?
Voilà, vous avez compris.
Oui, j'ai compris. Monsieur Jadot, je vous félicite. Je vous dis, si nous avions pu faire toutes les propositions, c'est pour améliorer. Je donne un exemple banal. Nous avions dit que ce calendrier publié, c'était un calendrier était anticonstitutionnel.
En quoi il est anticonstitutionnel?
Vous n'avez qu'à prendre tous les électeurs majeurs, tous ceux qui ont 18 ans depuis 2011,
ça, c'est l'article 5,
l'article 5 de la Constitution. Mais pourquoi on doit exclure ces messieurs-là? Pourquoi ils ne peuvent pas exprimer leurs droits civiques? Et c'est là que nous disons que c'est anticonstitutionnel. On n'a pas tenu compte de tout ça. On doit continuer à exclure les souverains primaires, les détenteurs du pouvoir, et c'est là nous disons que c'est anticonstitutionnel. Nous avions même dit que c'est un calendrier mensongère. Pourquoi? Et vous n'avez qu'à voir. En 2014, le 30 janvier 2014, la CENI nous présente un budget de 750 400 quelques. Mais nous arrivons au mois de février. La CENI nous présente un budget d'un milliard quelques. Et encore bizarre, pour dire que c'est un calendrier mensongère, le calendrier est publié les mêmes jours, les 12 février. Et les mêmes jours, on publie l'ordonnance publiant la loi portant organisation et fonctionnement donc des élections. Or, c'est en violation de la Constitution. Il est dit, c'est clair, que cette loi-là ne peut entrer en vigueur qu'après la publication dans les journaux officiels, qui doit être 30 jours après. Et merci. On a publié dans les journaux officiels les 17.
Merci. Honorable François Ndekouye, le calendrier de la CENI est un calendrier anticonstitutionnel. Il a relevé, n'est-ce pas, l'article 5 qui serait violé par ce calendrier. Et puis, il évoque une autre question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi le calendrier a été publié quelques heures après la promulgation, n'est-ce pas, de la loi électorale?
D'abord, je ne crois pas que dans un calendrier, on précise les personnes qui sont électeurs et éligibles. C'est la loi qui les fixe. Et les modalités d'application de la loi sont de la compétence de la CENI en ce qui concerne effectivement ces recensements, cette actualisation du fichier électoral. C'est une demande qui peut être entendue par la CENI et qui nous intéresse tous. Nous tous, nous voudrions bien que les jeunes qui sont devenus adultes aujourd'hui puissent participer à toutes les élections. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec un calendrier? Je ne vois pas. Le calendrier vous dit nous irons aux élections à telle date. Maintenant, s'il y a des personnes qui peuvent être exclues de leur droit de vote, nous pouvons les brandir tous et moi en premier. Je me battais pour cela, pour que la CENI puisse enrôler ou refaire les fichiers électoraux.
Donc, dans ce sens, l'opposition a raison.
Ce n'est pas un argument pour dire qu'on n'a pas de raison d'organiser les élections locales. C'est dire qu'il y a une préoccupation qui peut être rencontrée par la CENI de manière à ce que tous les Congolais puissent participer au vote. Il n'y a pas d'inconvénient là-dessus. Vous avez rappelé, Guy Maté, ici, à Mukonkole, que la CENI est composée par la société civile, l'opposition et la majorité. Quand vous avez des préoccupations qui vous concernent, ça vous coûte quoi d'appeler les vôtres pour leur dire nous avons telle préoccupation, défendez-les au sein de la CENI, même s'il est clair que ça reste une institution indépendante. Politiquement, ça se joue. Pourquoi eux doivent-ils attendre que les décisions soient prises, y compris par les leurs, qui sont membres de la CENI, pour venir le lendemain déranger l'opinion nationale et internationale sur des préoccupations qu'ils auront pu présenter à son temps. De la même manière, comme l'a dit le professeur Alphonse Maïndo, l'opposition est prise au piège parce que tous nous avons dit qu'il faut un calendrier global. L'opposition, comme la communauté internationale, maintenant qu'on vous présente un calendrier global, vous dites non, extrayons ceci et pas cela. Lui-même vous dit, il n'y a que l'élection présidentielle qui est constitutionnelle, où la date de la convocation doit être précisée. Donc on peut dire à toute aisance que la députation nationale peut aussi être reportée en 2022, sans aucun problème. On peut reporter les élections sénatoriales quand on voudra, quand on en aura les moyens. On n'organise que les élections présidentielles parce que celles-là ont une contrainte constitutionnelle. Ce n'est pas ça. Les préoccupations du peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de voir des personnes élues, les représenter et défendre leurs intérêts à tous les échelons du pouvoir. C'est cela la préoccupation du peuple congolais, et cela la démocratie, et cela la gouvernance.
Alors, il y a une question que Jacques Dikou de Kinshasa vous pose. Il dit, cette proposition, donc là il fait allusion à la proposition de l'opposition, marque le déficit de confiance envers une institution reconnue, technique. La solution serait dans un dialogue des mises en confiance entre la CENI et ses groupes, donc l'opposition.
Donc on va maintenant prendre l'opinion des gens qui doit aller au-dessus des lois que nous avons votées ensemble, opposition et majorité. Parce qu'il y a un cadre organique de la CENI qui a été voté à l'Assemblée nationale, qui consacre l'indépendance de la CENI. Et dans quel pays du monde les propositions viennent après la prise de décision? Est-ce qu'il est concevable que quelqu'un qui savait que la CENI publiera à un moment donné un calendrier, parce que malheureusement on l'avait annoncé plusieurs mois avant qu'on va publier un calendrier global, pourquoi, bon Dieu, nos amis de l'opposition n'ont-ils pas fait leurs propositions à son temps?
Et pourquoi, pourquoi à ce moment-là, lorsque l'opposition demandait qu'il y ait un consensus, n'est-ce pas, au sujet de ces projets de calendrier, pourquoi la majorité n'avait pas tenu compte, n'est-ce pas, de cette demande de l'opposition?
La majorité est respectueuse des textes. La majorité ne s'est pas prononcée parce qu'elle estime qu'elle n'est pas compétente quant à ceux. Seule la CENI, qui a son sein, a les représentants de toutes les couches de la population, l'opposition, la société civile, la majorité, est compétente pour décider quant à ceux. Nous ne sommes pas des violeurs des textes. Quand nous avons voté des textes au Parlement, nous les respectons. Nous ne sommes pas comme l'opposition qui dit reconnaître que la CENI est l'organe compétent et exiger, parce que j'ai entendu ce qu'a dit votre collègue, que l'opposition exige de la CENI qui est une concertation pour réharmoniser les textes de la CENI. Nous sommes dans quel pays du monde? Nous devons apprendre à respecter nos textes. C'est cela la valeur d'un pays, c'est cela la valeur des hommes, opposition comme majorité. Il n'est pas question aujourd'hui de revenir sur les choses que vous-même vous avez demandées.
Et donc, pour vous, il n'y a rien à reprocher, n'est-ce pas, au calendrier publié par la CENI?
Moi, je pense que s'il y a des questions techniques comme celles qui viennent d'évoquer, la complexité, effectivement, de l'élection, le coût des élections, mais il revient à discuter avec la CENI pour savoir est-ce que la CENI est prête à les organiser dans ce contexte. La CENI dispose-t-elle des moyens pour pouvoir organiser ces élections dans cette complexité? Personne n'ignore que les élections locales vont être complexes. Mais il revient à poser la question à la CENI. Si la CENI, elle, dit « Je suis prêt à affronter cette complexité et à organiser des élections... »
N'est-ce pas cette démarche que l'opposition a fait démener?
Non,
l'opposition
veut changer les calendriers de la CENI. Il ne veut pas comprendre. Parce que quand on vous dit « J'exige qu'on change les calendriers électoraux », ce n'est plus question de vouloir comprendre.
Merci.
La décision est prise, nous devons la respecter, opposition comme majorité.
Merci, professeur Alphonse Maindo. Il y a une question pour vous qui vient de Lubumbashi au Katanga.
Merci. Andy Mabon de Lubumbashi. Joindre l'utile à l'agréable, ce que doit faire la classe politique congolaise. L'utile, c'est de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels, et l'agréable, c'est de pouvoir émettre sous le même diapason.
Voilà, professeur Alphonse Maindo.
Bon,
en fait, alors, je crois qu'ici, la préoccupation, c'est la pollution.
Bon, hein. J'ai cru comprendre qu'il voulait parler de joindre l'utile à l'agréable, quelque chose comme ça.
Mm-hmm. Bon. En fait, il veut dire ceci. L'utile, c'est de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et l'agréable, c'est de pouvoir émettre sur les mêmes diapasons pour éviter à la population les ennuis, car c'est cette dernière qui paye la facture.
Oui, exactement. Effectivement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure dans mon introduction. Il est vrai que l'établissement d'un calendrier électoral relève de la souveraineté de l'État et donc des institutions que l'État a mises en place pour faire ça. Mais comme nous sommes dans un pays qui est donc dans une espèce de fragilité politique et sociale à cause de ce passé récent que l'on connaît, y compris de l'actualité que nous suivons chaque jour, notamment dans les provinces orientales, je veux dire le nord, le sud Kivu, le nord du Katanga, l'Ituri, en province orientale, on a des sérieux problèmes en ce qui concerne la paix et la stabilité. Et donc on a une paix fragile, on a la mission des Nations Unies qui est là pour aider à stabiliser. Donc, il ne faut pas chercher encore à mettre les conditions qui pourraient nous replonger dans une espèce d'instabilité, de soulèvement, de mécontentement. Et donc, ce serait bien donc d'accepter de négocier ou de revisiter le calendrier. D'autant plus que le calendrier qui a été proposé, disons, la proposition qui est faite par l'opposition ou avec l'appui de certaines organisations de la société civile, c'est un, à mon avis, c'est une proposition de bon sens. De bon sens dans ce sens où tout le monde est d'accord aujourd'hui. J'ai entendu tout à l'heure le représentant, l'honorable député de la majorité, reconnaître qu'il y a des difficultés, la complexité des élections locales. Si on veut organiser ça dans l'ordre tel que c'est proposé, c'est sûr qu'on va dépasser les délais qui sont prévus constitutionnellement, notamment pour la présidentielle et législative. Donc, donc dans le bon sens, c'est un bon sens donc, il faudrait revoir avec tout le monde, se mettre d'accord pour dire voilà, quand on n'a pas suffisamment de moyens, on fait la politique de ses moyens en établissant des priorités. Un bon père de famille ne peut pas dire voilà, chaque mois j'ai besoin de 20 kilos de sucre, alors je vais, comme je n'ai pas assez d'argent pour acheter ça, je vais compter sur ci, sur ça. Je vais compter sur la bonne volonté de mes amis, etc. Non. Alors, en deuxième lieu, c'est une démarche citoyenne. Voyez-vous, notre pays reconnaît, notre constitution reconnaît aux citoyens le droit de pouvoir s'exprimer sur toutes les affaires publiques, toutes les affaires de l'État. Et c'est donc un exercice tout à fait légal et constitutionnel. Et le président de la République, d'ailleurs, l'a rappelé, il n'y a pas longtemps de ça, le 5 janvier dernier, quand il s'adressait aux notabilités du Katanga. Il leur avait rappelé que les citoyens peuvent initier des pétitions pour changer une politique, pour demander à une autorité de faire aussi ou de faire ça. Alors, là, il s'agissait de la question du passage de 11 à 26 provinces. Alors, donc, on est là, si vous voulez, dans un exercice citoyen de l'expression libre de ses opinions pour que les affaires de l'État aillent mieux. Donc, merci. Quitte maintenant à l'autre partie, c'est-à-dire à la majorité et à l'institution qui est censée incarner tout le monde, en l'occurrence la CENI, qui comprend d'ailleurs les membres de l'opposition, de pouvoir discuter de commun accord pour avoir des élections apaisées.
Merci.
Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des élections qui seront après source de problèmes et qui vont donc apporter des autorités qui ne seront pas légitimes, qui ne seront pas acceptées, qui seront contestées, parce qu'on aura fait quelque chose dans la précipitation.
Merci,
sans avoir associé tout le monde.
Merci, honorable Mukonkole. Il y a unanimité, n'est-ce pas, sur le fait que les élections locales sont complexes à organiser, et même le professeur Alphonse Mahindo reconnaît, n'est-ce pas, les bien fondés de votre démarche, et lui, il propose, n'est-ce pas, la révisitation du calendrier tel que proposé par la CENI. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution pour harmoniser les différents points de vue? Ça sera aussi votre conclusion, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission.
Je suis content que l'honorable François soit en possession de notre déclaration faite le 27 février. Et nous avions donné des pistes de solutions, parce que nous aimons ce pays et ce pays nous appartient tous. Mais je vais rappeler à l'honorable François une chose. Avez-vous des moyens? Quand la CENI elle-même vous dit, voilà les contraintes externes. Et les 22, dans ces mêmes calendriers-là, il y a une disposition que la CENI avait dit qu'il faut qu'on arrive déjà à dégager la disponibilité des moyens pour commencer à exécuter. Est-ce que ça a déjà été fait? Merci. Nous avons aussi des problèmes. Est-ce que vraiment, vous êtes sûr que nous sommes en mesure, aujourd'hui, d'installer tout ce que nous avons comme organe délibérant? Tout ce que nous avons comme instance exécutive jusqu'au niveau
voilà,
de la
politique.
Moi, je crois que ce sont des choses. Nous pensons, pour terminer, il ne faut pas que l'honorable François continue à considérer que quand le peuple décide, je crois que la loi doit respecter l'objectif et la volonté de notre peuple.
Merci, honorable François Ndekouye. Votre conclusion, comment faire pour harmoniser les différents points de vue? Nous sommes à la fin de l'émission.
Mais je crois que la CENI devrait expliquer davantage, communiquer avec l'opinion pour faire comprendre de quelle manière va s'y prendre pour organiser ces élections complexes, mais en même temps à l'opposition d'accepter que la gouvernance à la base soit faite par des élus et le plus vite possible, et qu'au peuple congolais de se préparer pour avoir les représentants à la base et aller aux élections locales.
Merci, professeur Alphonse Mahindo. Votre conclusion?
Alors, ma conclusion, elle est tout à fait simple. Moi, je recommanderais à la CENI de pouvoir prendre en compte cette ces observations qui ont été faites par l'opposition, qui vont dans le bon sens, vous pourrez discuter, prendre ça comme une contribution pour améliorer son travail dans l'intérêt de tous, des uns et des autres. Voilà ce que je pourrais dire en deux mots.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Dieudonné Nyangassa qui était à la technique. Merci à Alain Irung, Kéline Couté et Berry Franklin Luchaka qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision d'Eben Kabamba, à la présentation Guy Maté. Merci et à la prochaine. Yeah.